France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver au petit matin, au programme aujourd'hui. Un journaliste qui écrit à l'encre des embruns dans les chroniques littorales, malaise chez Lefebvre et Dalloz, l'éditeur du Code civil et du Code pénal, enquête à 6h moins le quart sur France Inter. Notre invité déjà debout prend la route aux aurores. Nous serons avec un chef d'entreprise de transport et collecte de produits agricoles. Tout le monde rit et tout le monde pleure, tout le monde vit et tout le monde meurt. Ce n'est pas de la philo, c'est ce que chante David Byrne. Il sera dans la playlist de France Inter. Et à propos de philo, on parle des places respectives de l'humain et de l'environnement dans le cosmos. Ce sera dans le Café Philo juste avant 6h. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Et on commence avec le journal de Féline Leloir-Duhaut. Bonjour Féline.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Les avocats de Jair Bolsonaro prêts à déposer des recours.
Et ce, y compris à l'international. L'ex-président brésilien a été condamné hier soir à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Une condamnation décriée par les États-Unis. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, promet de répondre en conséquence à cette condamnation injuste. Donald Trump, lui, compare ce procès au déboire judiciaire qu'il a lui-même connu.
J'ai suivi ce procès, je le connais assez bien. Il a été un bon président du Brésil. C'est très surprenant que ça puisse arriver. Ça ressemble vraiment à ce qu'ils ont essayé de faire avec moi. Mais ils ne s'en sont pas tirés comme ça, pas du tout. Je peux juste dire, je l'ai connu en tant que président du Brésil, c'était un homme bien. Et je ne vois pas ce genre de choses arriver.
Et Donald Trump qui a honoré la mémoire de son ami Charlie Kirk hier lors des commémorations du 11 septembre. Un génie de sa génération et un champion de la liberté, a-t-il déclaré devant le Pentagone. Charlie Kirk, influenceur américain et visage de la jeunesse trumpiste, a été abattu mercredi lors d'une réunion publique dans l'Utah. Donald Trump annonce aussi lui décerner prochainement la médaille présidentielle de la liberté. C'est la plus haute distinction civile américaine. Côté enquête, le tireur est toujours recherché. Le FBI a publié la photo d'un suspect. On y voit un homme portant une casquette et des lunettes de soleil. Un appel à témoins a été lancé.
La France va envoyer 3 avions chasseurs Rafale en Pologne.
Annonce d'Emmanuel Macron hier soir qui veut aider Varsovie à protéger son espace aérien. Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie, a-t-il déclaré sur X. Ça fait suite à l'incursion de 20 drones russes mercredi dans l'espace aérien polonais. Et plusieurs autres pays européens ont aussi décidé de mobiliser leur aviation. Éric Biegala.
L'Allemagne, par exemple, a promis hier après-midi de doubler la durée et les moyens mis en œuvre pour réaliser les missions de police du ciel qui protègent le flanc est de l'OTAN, c'est-à-dire les frontières de la Pologne et des Pays-Baltes, où 2 drones russes s'étaient déjà aventurés en juillet dernier. 2 chasseurs-bombardiers allemands supplémentaires, en plus des 2 Typhoons déjà sur place, et une mission rallongée de 3 mois. La République tchèque devrait-elle envoyer 3 hélicoptères de combat susceptibles de faire la chasse aux drones. La France a donc promis 3 rafales, et la Grande-Bretagne envisage de renvoyer en Pologne, quelques-uns des 6 chasseurs Typhoon qu'elle avait encore déployés dans la région il y a un mois et demi. Quant aux Pays-Bas, qui ont déjà en Pologne plusieurs chasseurs F-35, les Pays-Bas ont eux promis de déployer en Pologne des matériels anti-drones et d'accélérer la livraison de 2 batteries de missiles anti-missiles Patriot qu'ils devaient livrer aux Polonais. Dans le même temps, la Pologne et les Pays-Baltes ont sérieusement restreint les conditions de survol de toutes leurs zones frontières avec l'Ukraine ou la Biélorussie, où à partir de ce vendredi, les armées russes et biélorusses doivent entamer un exercice militaire.
La Pologne, de son côté, a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se réunir en urgence aujourd'hui. Il n'y aura pas d'État palestinien. Déclaration limpide de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a signé hier soir un accord pour construire plus de 3000 nouveaux logements en Cisjordanie. Nous préserverons notre héritage, notre terre et notre sécurité, a-t-il affirmé. Une déclaration dans un contexte sensible alors que plusieurs États, dont la France, prévoient de reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ONU, qui condamne aussi les frappes israéliennes au Qatar, sans pour autant nommer Israël. Pour les Nations Unies, la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza doivent être une priorité absolue. Le Qatar, de son côté, accepte de poursuivre son rôle diplomatique pour la paix dans la région.
En France, Sébastien Lecornu poursuit ses consultations politiques en vue de bâtir son gouvernement.
Après l'ex-président Nicolas Sarkozy hier, le nouveau Premier ministre donne la parole aux partenaires partenaires sociaux. Sébastien Lecornu reçoit aujourd'hui la CFDT. Lundi, ce sera au tour de la CFTC et de la CFE-CGC. Puis mardi, place au syndicat de patrons avec l'UDP, le Premier ministre, qui risque aussi d'affronter une dégradation de la note de la France. Aujourd'hui est attendu le verdict de l'agence Fitch. C'est la première de la vague d'automne à se prononcer et c'est un indicateur clé pour les marchés déjà perturbés par la chute du gouvernement Bayrou et le changement de Premier ministre. Mais si en mars dernier, Fitch avait maintenu son AA- comme un sursis provisoire, cette fois, Mathilde Dehimy, il n'est pas sûr que la France s'en sorte.
Il serait logique de corriger une incohérence, estiment des analystes financiers, celle de voir la France mieux notée que d'autres pays au profil économique relativement similaire, mais avec un déficit moindre. Aux yeux de ces experts, la France n'a pas réussi à rectifier trois faiblesses déjà pointées par les agences de notation, sa dette, sa croissance fragile et son instabilité politique, empêchant un plan d'assainissement budgétaire. Sur ces seuls critères, la dégradation de la note française semble probable. Mais Fitch peut aussi décider de temporiser. Dans ses observations de mars, l'agence américaine mettait en avant que la situation budgétaire pouvait très bien se stabiliser à moyen terme, la France s'appuyant sur un large tissu d'entreprises et des banques solides. Les marchés financiers, eux, sont préoccupés, mais pas catastrophistes. Ils ont déjà légèrement augmenté leurs primes de risque pour acheter de la dette française. Certains investisseurs commencent aussi à se tourner vers la dette d'autres pays comme l'Italie, un mouvement qui pourrait s'accroître si Fitch dégradait ce soir la note de la France.
Et la notation Moody's est attendue fin octobre, celle de S&P fin novembre. Et ce qui risque de ne pas apaiser les marchés, c'est aussi la prochaine journée de mobilisation du 18 septembre. Une mobilisation bien plus forte que celle du 10, prévient Philippe Tabarot, le ministre démissionnaire des Transports, car l'appel de l'intersyndicale est notamment très suivie dans les transports aériens et ferroviaires. Philippe Tabarot prédit donc une journée noire qui dépendra de la capacité à organiser un service minimum. À Paris, un homme en fuite après une agression à l'arme blanche. Ça s'est passé hier soir près des Invalides dans le 7e arrondissement. La victime, un riverain de 51 ans, a été pris en charge par les secours. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le suspect, lui, est activement recherché par la police.
Et en football, c'est le retour de la Ligue 1 ce week-end.
Et ce soir, tous les regards seront braqués sur l'Olympique de Marseille qui reçoit Lorient à 20h45. L'OM en mauvaise posture avec déjà deux défaites en trois matchs. Mais la tendance va peut-être s'inverser avec l'arrivée de Benjamin Pavard, le nouveau défenseur, ravi de retrouver les terrains français après 9 ans à l'étranger. Comment réussir à financer sa préparation aux Jeux Olympiques quand son sport est peu médiatisé? C'est une préoccupation pour beaucoup d'athlètes français, même après les Jeux de Paris. Et c'est pour répondre à ce problème qu'a été lancé le projet Soutiens ton sportif par la Fondation du Sport. Et la cagnotte vient de dépasser la barre du 1 000 000 d'euros, des dons qui proviennent d'entreprises mais aussi de particuliers. 700 athlètes se partagent cette cagnotte.
C'était le journal de Féline Leloir Duo. Bon réveil sur France Inter, il est 5h08.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Un temps instable mais un peu plus clément, Sébastien Léas.
Les averses de la nuit quittent le pays, mais le long de la Manche, entre le Cotentin et les Flandres, l'instabilité persiste avec localement des orages. Cet après-midi, les averses orageuses s'infiltreront un peu plus dans l'intérieur de la Normandie et des Hauts-de-France. Des Pyrénées à l'ouest, Auvergne et au Limousin, la journée commencera sous des nuages compacts avec un peu de pluie avant que les éclaircies se développent cet après-midi. A l'inverse, entre le bassin parisien et les Pays de la Loire, le soleil se montrera un peu plus timide après la mi-journée. Le soleil sera plus durable autour de la Méditerranée et en Rhône-Alpes, hormis sur le Roussillon. Et sur le reste du pays, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Les températures restent un peu fraîches pour la saison, avec 18 à 25 degrés cet après-midi, alors qu'il fera 25 à plus de 30 degrés autour de la Méditerranée.
Sébastien Léas de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter, un journaliste marin dans les chroniques littorales, un chef d'entreprise spécialisé dans le transport de produits agricoles. Il sera notre invité déjà debout. On vous explique à quoi sert le secrétaire général de l'Élysée. Ça sera dans la chronique D'où ça sort. Et puis l'humour de Tanguy Pastureau à 5h25. Mais d'abord, musique avec un artiste qu'on adore sur France Inter. Benjamin Biolay chante Le Penseur. Bon réveil.
mobile et se demande où sont les villes et les ténagères invincibles qui n'est pas revenu de l'ouest. Il regarde la mer impavide qui d'un coup d'un seul se débride, puis boit la gourde à moitié vide. Le ciel et l'eau se font détresse. Il s'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant, mon troupeau. J'emmenais mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il n'y aurait rien là-haut. Pourrais-je emmener les poteaux? Il regarde la route de l'exil et se demande où vont les îles et les grands oiseaux indociles en forme de signaux de détresse. Il rêve des berges du Tibre, du Nil, humant la fumée d'une de Nil. Il reste au loin quelques collines allongées dans la brume épaisse. Avant ici avait des chenilles, des grands bourgeois d'une grande ville, le confluent, le pauvre et nu. Et le jardin montre son cul, le déclin était prévisible, l'humanité si peu sensible. Mais tant qu'il y aura des bistrots, je veux bien mourir maintenant, trop bon.
Le penseur de Benjamin Biolay en concert le 22 novembre prochain à Longjumeau en Ile-de-France. 5h12 sur France Inter, les chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Vous recevez un journaliste marin ce matin?
En la personne de Fabien Perrier, Marion. Fabien Perrier est un, on va dire, un journaliste marin, puisqu'il travaille pour le Télégramme de Brest entre Paris et Athènes. Et c'est la raison pour laquelle aussi il est avec nous ce matin. Généralement, Fabien, je pose toujours la même question aux gens de mer. La mer, qu'est-ce que c'est pour vous? Mais là, on va préciser, comme vous avez écrit sur la mer Égée, qu'est-ce que la mer Égée pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente?
Ah ben, la mer Égée, c'est une mer grecque, on a envie de dire aujourd'hui. Hein, l'histoire, les traités ont confié cette mer à la Grèce. Mais c'est quand même une mer qui évoque plein d'images. Alors, si je vous dis blanc, bleu, soleil, vous allez tout de suite penser aux Cyclades.
Là, je pense aussi au drapeau grec, blanc et bleu.
Hein. Exactement, mais j'ai ajouté le soleil.
Ah oui.
Mais ça m'évoque aussi, c'est un peu plus ancien, mais le orange des gilets de sauvetage qui s'accumulaient en 2015-2016. Sur les plages des îles, et c'était les migrants qui arrivaient. Et puis, ça m'évoque des images de couleurs différentes, mais qui renvoient plutôt à l'acier. Et ça, ce sont les bateaux qui se croisent. On peut avoir des bateaux de plaisance, on peut avoir des bateaux de la marine marchande, mais aussi des bateaux militaires.
Et Fabien, concernant la navigation, n'oublions pas les yachts, très nombreux, que l'on voit au Pirée.
Donc en fait, il y a sur cette mer Égée tout un mélange, comme je le disais tout à l'heure, qui se crée, parce que c'est une mer carrefour.
Et c'est une mer d'actualité, parce qu'en face, il y a la Turquie.
Bien sûr, une mer d'actualité, c'est un carrefour entre trois continents. La Turquie est une des portes d'entrée dans ce continent asiatique, en fait. Et l'actualité est liée au contexte international, mais aussi aux personnalités en poste en Turquie et en Grèce. Et la mer Égée, régulièrement, redevient un lieu de division, un lieu parfois d'affrontement symbolique. Mais en tout cas, régulièrement, on sent les tensions qui accélèrent. Et très souvent, c'est quand des nationalismes se rencontrent, ou s'affrontent plus exactement. Et c'est la mer Égée qui est ce lieu d'affrontement autour de questions comme le gaz, le pétrole, la définition de la zone économique maritime. Bref, c'est une mer de mélange et aussi de tension.
C'est aussi une mer très géopolitique. On n'est pas très loin du canal de Suez, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il faut parler économie bleue, préservation bleue. C'est une mer, hélas, comme toutes les autres, polluée.
C'est une mer polluée. D'ailleurs, je vais faire, avec le mot bleu, un petit retour sur la question précédente. Parce qu'en Turquie, il y a un concept qui est né, qui est le concept de la patrie bleue, et qui est en fait la tentative par la Turquie de se réapproprier cette mer Égée. Et en fait, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a la volonté de capter une part de la production gazière dans la région, d'avoir une zone de pêche agrandie. Et tout ça, en fait, se fait parfois, régulièrement, au détriment de ce qui crée la richesse de la mer Égée, mais qui est aussi notre avenir. C'est-à-dire comment exploiter une mer sans la surexploiter, sans la polluer. Même question avec le tourisme. Que faisons-nous avec le tourisme? Est-ce que le tourisme, quand 34 millions de visiteurs sont en Grèce, est-ce que c'est sain pour l'économie grecque? Mais est-ce que c'est sain pour la mer, pour ce qu'elle apporte, pour ce qu'elle est une mer nourricière, etc., etc. C'est des questions que la mer Égée pose en réalité au quotidien.
Parce qu'aujourd'hui, il faut sauver la mer Égée de toute forme et de toutes sortes de pollution.
Et qui assure nos lendemains à peu près sereins.
Merci à vous Fabien Perrier. Votre ouvrage, Mer Égée, Ulysse ne reviendra pas, c'est aux éditions Nevicata et puis site internet, celui du Télégramme de Brest, letélégramme.fr. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Manuel Lamarque, il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
À la une de la presse ce matin, il y a ceux qui choisissent l'économie et la politique et les autres. Retraite, impôts, ce qui fait débat, c'est le titre de une des Échos. La liste en clair des dossiers auxquels le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu va devoir s'atteler. Le PS réclame une taxation accrue des plus riches, précise le quotidien économique. Quand un peu plus bas, un autre article raconte comment la crise politique fait flamber les attaques spéculatives à la Bourse de Paris. Taxer les ultra-riches, chiche ! Titre justement Libération, avec un grand portrait du nouveau chef du gouvernement, dossier sous le bras, air concentré, taxe sur les riches, les mensonges de Gabriel Zucman. C'est l'intitulé de l'édito de l'Opinion. Gabriel Zucman, c'est l'économiste qui a mis au point cette taxe planchée de 2% pour 1800 foyers fiscaux. Plus sobrement, le Figaro fait état de tractations budgétaires sous la menace des agences de notation, puisque Fitch doit donner ce soir son verdict sur la solvabilité de la dette française, autrement dit notre capacité à la rembourser, une info importante pour les prêteurs et les investisseurs. Sinon, c'est la fête de l'humanité et le quotidien communiste en profite pour mettre en une Patti Smith, une des têtes d'affiche de l'événement cette année. La chanteuse américaine aux longues tresses grises donne un entretien en page intérieure et assure « Je suis toujours celle qui cassait les guitares ». La Croix choisit de mettre en première page des pièces de théâtre à succès de l'automne et joie de retrouver en photo notre ami et confrère François Morel qui joue Art de Yasmina Reza cet automne. Et puis une diva, et quelle diva en une des Échos magazines, l'étoile du Sud. Titre l'hebdomadaire, cette étoile c'est Priti Yende, comme son prénom l'indique, robe rouge, spectaculaire et port altier, la soprano est, dit le journal, au sommet de la scène lyrique. Priti Yende au sommet, c'était au concert de réouverture de Notre-Dame en décembre 2024. Hier, Mathieu Noël et son équipe recevaient dans Zoom Zoom Zen Jean-Pierre Jouyet, entre autres ancien secrétaire général de la présidence de la République de 2014 à 2017. Et c'est vers Cyril Lacarrière qu'on se tourne pour comprendre la fonction de secrétaire général de l'Élysée. D'où ça sort ?
Imaginez un poste sans costume officiel, si ce n'est un costume gris ou bleu marine, et une cravate, un poste sans élection, sans horaire non plus, un poste sans micro, sauf de temps en temps, un micro qui peut faire passer des messages, le temps parfois d'un sourire, n'est-ce pas Jean-Pierre Jouyet ? À l'Élysée, il y a le président de la République et il y a lui, l'incarnation de l'homme de l'ombre. Et là, homme ne ce n'est pas qu'un terme qui englobe tout le monde, puisqu'il n'y a jamais eu de femme à ce poste, vous avez commencé à le dire, la République c'est un truc de mec.
Et quand est apparue cette fonction, Cyril ?
Eh bien, sous la Troisième République à l'Élysée, il y avait déjà des chefs de cabinet, mais pas encore de secrétaire général, au sens où on l'entend aujourd'hui. La fonction a finalement été créée en 1939 par Albert Lebrun, le dernier président de la Troisième. Et s'il y en a ensuite eu sous la Quatrième, c'est véritablement avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1959 que le poste a changé de dimension. Une suite logique, finalement, avec la présidentialisation de la Cinquième République. Il y a eu 22 titulaires du poste, le record de longévité est détenu par quasiment le dernier en date, Alexis Kohler, 8 ans auprès d'Emmanuel Macron. Et c'est sans doute lui qui a le mieux incarné ce titre officieux de vice-président ou de président bis qu'on accole parfois à cette fonction. Alors d'où ça sort le secrétaire général de l'Élysée ? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Cyril, la carrière du lundi au vendredi dans Zoom Zoom Zen aux côtés de Mathieu Noël. Rendez-vous 16h pour une émission consacrée aux exercices militaires russes de grande ampleur, les APAD. Ils en discuteront avec leur invité Marie Mindras, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Avant l'humour et le journal, tout le monde peut se tromper. Les sœurs du trio Haïm sont en playlist sur France Inter et elles chantent « Down to be wrong ».
Down to be wrong, don't need to be right. I left you the keys, I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight, you can't talk me out of it.
Down to be wrong, le nouveau titre du groupe Haïm, sorti cette année.
France Inter.
5h23, l'humour de Tanguy Pastureau qui nous parle des gorilles ce matin.
Récemment, j'ai répondu à une interview, parce que j'en donne de plus en plus au fur et à mesure que la fascination collective autour de moi grandit. Et en interview, je vous le dis, j'ai toujours les mêmes questions. Hein. Alors, ce spectacle, ça parle de quoi ? Je réponds aux deux sexes. Pas du tout, mais je sais que les gens comme ça vont venir. Il est comment au vrai Nagui ? Comme je n'ai pas écouté, je réponds également deux sexes. Le journaliste me dit, ça fait beaucoup. J'ai aussi le classique et l'ambiance à France Inter. Je réponds sympa, on prend des cafés entre socialistes. Mais là, le journaliste m'a surpris. Il m'a demandé, si vous étiez un animal, quel serait-il ? Il a fallu que je réfléchisse vite. Je me suis dit, Tanguy, mon amour, ok, il est tôt, hein, mais concentre-toi. Il était 14h, mais enfin, dans les milieux artistiques, ça équivaut à 8h30 du matin. Hein, et je me suis dit, si je réponds que je me verrais bien en lion, je vais passer pour quelqu'un de présomptueux. Si je dis gazelle, on va partir sur le genre. Donc, j'ai répondu le gorille au hasard. Parce que j'aime bien les gorilles, parce qu'ils se déplacent voûtés avec le corps vers l'avant. Il me rappelle Jean-Pierre Raffarin. Hein, ah oui, Emma, tu venais de naître. Raffarin, c'est un premier ministre des années 2000, alors qu'il est resté au pouvoir plus de 3 ans. Ça n'existe plus aujourd'hui. Hein, ceux qui font ça, Premier ministre, maintenant, ils déballent même plus leur carton. Ils disent à leur assistante, bonjour machine, j'ai pas le temps d'apprendre ton prénom, donc quand je fais EO, bah, tu viens. Hein, j'ai dit un gorille, puis je suis rentré chez moi, ce F-14 avec rooftop, payé avec les impôts des gens. J'étais pas content de moi. Après chaque interview, je me dis, j'aurais dû répondre ça et ça et ça. J'ai envie de rappeler le ou la journaliste pour refaire l'entretien. Et après chaque chronique, ça me fait la même chose. Et après chaque moment de vie. Hein, ce matin, j'ai dit bonjour à Oldelaf avant de réaliser que c'était un baladin. Il n'a aucun pouvoir à France Inter. Je peux donc ne pas lui adresser la parole. Si j'avais compris ça avant, j'aurais gagné une minute de vie. Donc, une fois à la maison, je me suis approché de Jean-René, un boomer que j'ai adopté dans le cadre du programme. Ils ont kiffé sur 50 ans. Ils vont morfler la fin de leur vie, lancé par François Bayrou avant son suicide politique. J'ai retiré à Jean-René ses chaînes. Puis j'ai demandé de me trouver des infos sur le net à propos des gorilles. Et JR m'a débusqué un article du magazine Géo intitulé « Rwanda, la moitié des bébés gorilles tués par les mâles dominants ». Est-ce que Sandrine Rousseau doit avoir peur de l'avion? Elle n'a pas dû aller au Rwanda, ce qui fait que les gorilles ne sont pas déconstruits. Ils sont là, ces gros beaufs, à tuer les petits, en frottant leur phallus contre les feuilles. On dirait rendez-vous en terre inconnue si l'invité vedette avait par erreur bouffé des noix hallucinogènes au fin fond de la jungle. Et en fait, je vous explique, parce que j'ai étudié le truc... Les gorilles ont plutôt bon esprit, mais enfin, faut pas les chauffer. Voilà, ils ont le caractère de Mathilde Panot. Et parmi les gorilles, il y a des mâles dominants qui peuvent pas brider leur instinct de domination comme on le fait nous. Parce que, voilà, ils n'ont pas le contrôle de ça, ils n'en ont pas besoin d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas de MeToo chez les gorilles. Donc le parcours sordide d'Harvey Weinstein, pour eux, ils appellent ça vie normale. Hein. Au Rwanda, il restait très peu de gorilles, mais ils ont été protégés, il y a des rangers qui s'occupent d'eux. Or, dès qu'on se sent sécure, comme on dit, eh ben, on se reproduit. C'est pour ça que les ministres ont une vie sexuelle débridée, parce qu'ils ont des gardes du corps. Ils savent qu'aucun prédateur ne va venir les trucider pendant qu'ils flirtent avec leur maîtresse. Jamais un ministre n'a été dévoré par un jaguar pendant l'acte. Hein. Ou alors c'est que le rendez-vous avait été organisé la nuit aux zoo de Beauval et qu'ils n'avaient pas trouvé la cage des koalas. Si bien que la population des gorilles sur place s'est mise à grossir, ils sont plus nombreux, mais sur un territoire de plus en plus petit à cause des activités humaines. Or, c'est pareil pour nous. C'est plus simple d'apprécier le genre humain quand on est seul dans une villa sur les hauteurs que dans une tour de 25 étages sans isolation sonore. Tous les philanthropes sont riches. Il n'y a pas une personne qui vit entourée de plein d'autres gens précaires qui vous dit « je vais essayer de bosser sur un vaccin contre toutes les maladies existantes parce que j'aime trop l'humanité hein, ». Bill Gates, il ne vit pas en HLM. Quoi. Si bien que les gorilles qui vivent dans la promiscuité tentent de protéger leur territoire, mais chez eux, il n'y a pas véri sûr. La seule option, c'est tuer le voisin. Ils deviennent fous. Et un ranger explique à Géo que les mâles dominants finissent par frapper les petits contre des surfaces dures, aussi bien une pierre que le torse de Thibaut InShape, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et le souci, c'est que les touristes viennent voir ces gorilles. L'an dernier, ils ont généré 200 millions de dollars de recettes. Donc le matin, ils arrivent en se disant « ça va être trop mimi ». Et là, le premier truc qu'ils voient, ce sont des bébés gorilles explosés au sol. Bah, ça te gâche la visite. Hein. Ensuite, tu hésites à acheter le magnet de la réserve à mettre sur le frigo. Autre problème, vous savez qu'au Rwanda, il y a des affrontements armés, parce que le pays n'est pas en paix. Et bien, ils perturbent les schémas alimentaires des gorilles. Parce que quand ça tire à balles réelles, tu peines à te concentrer sur le menu, comme on dit au Burger King de Kiev. Mais la reproduction des gorilles est également menacé, puisqu'on se reproduit peu en temps de conflit. C'est ce que j'ai dit à Jean-Pierre, qui m'a répondu « Oui, moi et mes potes, on est tous nés après la guerre ». Tout ça pour vous dire que les gorilles tuent leurs bébés et n'en font pas d'autres, ce qui fait que d'ici peu, ils risquent de ne plus y en avoir, alors qu'on avait réussi à sanctuariser leur existence. Comme quoi, il ne suffit pas de les protéger, il faut leur offrir en fait un cadre viable. Moi, j'ai rappelé le journaliste, je lui ai dit « Je voudrais revenir sur mes propos, le gorille est nul, je suis définitivement dauphin ». Il m'a répondu « Les dauphins mâles violent les femelles ». J'ai raccroché, je veux juste être moi-même et me taire pour toujours.
Tanguy Pastureau a retrouvé dans l'émission la bande originale de Nagui et Leïla Kadour qui reçoivent tout à l'heure le comédien Philippe Torreton pour La folle journée ou le mariage de Figaro à La Scala. Le journal à venir.
Ce week-end, France Inter est à l'Opéra de Nancy pour le festival Le Livre sur la Place.
Samedi, 11h, Christophe Galfard.
Dans Big Bang, c'est avec les yeux de la science que nous regarderons notre monde.
14h, Lilia Hassen.
Au livre etc. en compagnie d'Antoine Wauters, Léonore de Récondo, Daniel Bourion et des libraires francophones.
Dimanche, 10h, Rebecca Manzoni.
Débat et liberté critique du masque et la plume pour 5 romans de la rentrée.
Le Livre sur la Place, c'est ce week-end à Nancy avec France Inter.
Il est 5h29 sur France Inter et Ali Badou vient de faire son entrée dans le studio pour un avant-goût.
Une entrée triomphale.
Triomphale, évidemment. Bonjour
Marion,
Ali.
Bonjour Féline.
Au programme aujourd'hui.
À 6h20, au surlendemain de l'assassinat de l'influenceur d'extrême droite et pro-Trump Charlie Kirk, vous recevez Romain Huré, historien spécialiste des États-Unis pour étudier les conséquences de cet événement. À 7h45, le débat éco avec Thomas Porcher et Dominique Seux, les deux économistes des débattront de la préférence européenne pour les panneaux solaires et les batteries fabriquées en Europe et en France pour les voitures électriques. Et à 8h20, rendez-vous avec Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire de l'Europe et des Affaires étrangères, toujours en charge de dossiers ultra sensibles dans cette période troublée sur le plan géopolitique.
Beaucoup de questions en effet à lui poser. À tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal, Féline Leloir-Duhaut, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Les partenaires sociaux attendus à Matignon à partir d'aujourd'hui.
C'est le souhait du nouveau Premier ministre, incarner une rupture sur la forme mais aussi sur le fond et donc laisser plus de place aux syndicats. Car son objectif, c'est de préserver son gouvernement de la censure et pour ça, il va devoir soigner sa gauche, voire même édulcorer son projet de budget, Maxime Debs.
Il n'aura pas le choix s'il veut durer. Sébastien Lecornu devra retirer certaines lignes rouges du budget. Les syndicats en sont persuadés. Lui semble disposé à le faire. Le patron de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, dit en avoir eu l'assurance de sa part au téléphone des mercredis.
Le Premier ministre m'a dit qu'il avait accepté le poste parce qu'il avait cette latitude.
Les syndicats passablement irrités par François Bayrou sur les jours fériés ou encore l'énième réforme annoncée de l'assurance chômage, dont on ne sait pas si elle aura finalement lieu. Il faudra des reculs nets, visibles et concrets et une contribution au budget des plus aisés, que l'effort soit porté par tout le monde, pas seulement les travailleurs ou les chômeurs, et pas question de se laisser non plus amadouer avec un nouveau conclave sur les retraites qui ferait pchit et dont le seul but serait de gagner du temps.
Si changer de politique, c'est nous remettre dans la politique que voulait son prédécesseur, moi, j'ai plutôt trouvé que le nouveau pape avait l'air en bonne santé, donc il n'y a pas besoin de conclave.
Et si on parlait plutôt, dit-il, des aides aux entreprises, évaluées à 211 milliards d'euros par an par le Sénat. Un autre leader syndical de conclure, si on n'ouvre pas le sujet maintenant, on ne l'ouvrira jamais.
Sébastien Lecornu qui est aussi attendu au tournant par les oppositions. La chef de file du RN, Marine Le Pen, a déjà fixé plusieurs lignes rouges. Pas de hausse d'impôts pour les retraités, pas de doublement des franchises médicales et pas de budget semblable à celui de François Bayrou. Marine Le Pen qui continue de réclamer une dissolution de l'Assemblée nationale. Du nouveau dans l'affaire Agathe Hilleret, cette joggeuse de 28 ans retrouvée morte début mai dans la Vienne. Un homme d'une cinquantaine d'années est en garde à vue. Il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Deux autres personnes ont été entendues en audition libre par la police. Les perquisitions à leur domicile n'ont rien donné.
À l'étranger, le verdict est tombé hier soir pour Jair Bolsonaro.
L'ex-président brésilien est condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État à une peine sévère, même s'il risquait 43 ans de prison. Jair Bolsonaro, qui était jugé avec 7 autres co-accusés, les précisions à Brasilia de Jean-Mathieu Albertini.
27 ans et 3 mois de prison. À la fin de ce jugement historique pour le Brésil, la peine est lourde. Après 5 jours de procès, les 5 juges ont rendu leur verdict et une majorité s'est formée, intraitable. Le premier d'entre eux, Alexandre de Moraes, a donné le ton.
Au Brésil, quasi.
On est presque retourné à une dictature comme celle qui a duré plus de 20 ans.
Qui durou 20 ans.
Juste parce qu'une organisation criminelle constituée par un groupe politique
constituída por um grupo político,
ne sait pas perdre une élection.
Não sabe perder eleições.
Seul l'un des magistrats a profondément divergé de ses collègues, considérant Jair Bolsonaro innocent. Pour les 4 autres, il est incontestablement coupable et c'est Carmen Lúcia qui a scellé le destin de l'ex-président.
À propos de l'accusé, Jair Messias Bolsonaro, je pense que le parquet général de la République a prouvé qu'il a commis les crimes qui lui sont imputés en tant que chef de l'organisation criminelle.
Pour avoir de meilleures possibilités de recours, Jair Bolsonaro aurait dû compter sur au moins 2 juges favorables, déjà en détention à domicile dans le cadre d'une autre affaire. Il devrait être incarcéré une fois les recours épuisés.
Les États-Unis, elles, promettent de répondre à la condamnation injuste de Jair Bolsonaro. Déclaration hier soir du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio qui dénonce une chasse aux sorcières. Les avocats de Jair Bolsonaro, eux, vont déposer des recours. Une casquette, des lunettes de soleil, des vêtements sombres, c'est le portrait du suspect recherché pour le meurtre de Charlie Kirk, que le FBI a diffusé sa photo hier soir. L'influenceur ultra-conservateur a été abattu mercredi lors d'une réunion publique dans l'Utah, un martyr de la vérité et de la liberté pour Donald Trump, qui a décidé de lui décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté. C'est la plus haute distinction civile américaine.
Lui a remporté l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques.
La médaille d'or 2025 du CNRS a été décernée hier au mathématicien Stéphane Malla. Ce polytechnicien de 62 ans est devenu l'une des figures mondiales du développement de l'intelligence artificielle. Il est notamment reconnu pour ses travaux sur le stockage de données et leur analyse rapide. Est-ce que vous seriez prêt à payer 3 millions d'euros pour une calculette ?
Je ne suis pas sûre.
Oui, non, moi non plus, en effet. Mais attention Marion, c'est pas n'importe quelle calculette que je vous présente, c'est la Pascaline. C'est la première machine à calculer mécanique inventée en 1642 par Blaise Pascal. Donc là, forcément, on commence à y réfléchir. Elle sera mise aux enchères le 19 novembre prochain à Paris chez Christie's. Il n'en existe que 9 dans le monde, encore à l'heure actuelle. La précieuse pièce est exposée dans les locaux de la société d'enchères jusqu'au 23 septembre.
Je ne suis pas sûre qu'on ait envie de l'emmener au lycée quand même.
Non.
Merci Féline Leloir, Duo. Il est 5h36. Bonne journée à vous sous un temps mitigé ce vendredi. Météo toujours instable le long des côtes de la Manche avec des averses orageuses ce matin. Elles quitteront la Bretagne cet après-midi pour rejoindre les Hauts-de-France et la Normandie. Des cumuls de pluie importants attendus sur la Somme et le Pas-de-Calais. Le soleil, en revanche, dominera tout ce vendredi en région PACA et sur le Languedoc-Roussillon. Nuages ailleurs avec des averses plus importantes sur le tiers nord et le relief pyrénéen. Une nouvelle dégradation arrivera par la Bretagne ce soir. Le vent souffle assez fort encore sur les côtes de la Manche avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Côté température, prévoyez 8 à 21 degrés ce matin, 17 à 31 cet après-midi.
Le 5-6 sur France Inter.
C'est l'heure de la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, vous nous parlez du nouvel album de David Byrne, Who is the Sky ?
Un joli jeu de mots avec Who's this guy ? Qui est ce mec ? Avouez, c'est tellement plus beau, hein. Qui est le ciel ?
C'est vrai.
Et en plus, tout le monde rit avec David Byrne.
Everybody cries, everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone.
Eh oui, dans tous les téléphones, dans tous les restaurants, Marion. Je traduis quelques mots encore. Tout le monde rit et tout le monde pleure. Everybody loves, oui. C'est avec ce morceau, ces réflexions que commence le nouvel album de David Byrne. À 73 ans, ouais, le musicien américain et écossais de naissance. Il se reflète comme un infini dans un costume tout en couleur sur la pochette du disque. Et c'est sans doute la meilleure image pour définir ce qu'est devenu l'ex-chanteur des Talking Heads, un déploiement permanent. Rien que sur ces 10 dernières années, il a écrit un bouquin génial, inventé une nouvelle manière de faire les concerts avec American Utopia. Il a repensé la manière de filmer la musique aussi avec Jonathan Demme ou encore Spike Lee. Son label Waka Pop fait découvrir plein de trucs. En juin dernier, Olivia Rodrigo l'invitait sur scène pour jouer une reprise de sa chanson Burning Down the House. Mais comment fait-il ? Il s'interroge, David Byrne, il réfléchit beaucoup. Il reste heureux, même si la maison brûle, comme le disait la chanson. Et il est toujours capable de miniatures géantes, un peu comme des symphonies de poche. Écoutez par exemple cette chanson dédiée à son appart.
Maria apartment is my friend, David Byrne. Toujours intime, mon appartement est mon ami, c'est ce qu'il dit.
Ah, c'est ça.
Mais aussi loin d'être tout à fait seul, à ce que j'entends.
Ben oui, tout l'album est arrangé, interprété avec le Ghost Train Orchestra. C'est une douzaine de musiciens new-yorkais, des bois, des cuivres, des percussions, des cordes. Et puis s'ajoute un certain Kid Harpoon, c'est Tom Hull, un anglais, son nom vous dit rien, mais tout le monde se l'arrache. Oui. Il a travaillé notamment sur Flowers de Miley Cyrus ou encore avec Harry Styles. Alors le morceau qu'on entend là sur France Inter ne parle que d'amour au son de trompettes espagnoles. Vous l'entendez, on croirait un cortège de fanfares latines, avec une invitée qui va arriver, la chanteuse du groupe Paramore, Hayley Williams. What is the reason for it? David Byrne. Et son nouvel album Who is the Sky, qui est le ciel dont France Inter est partenaire. Vous avez une réponse à la question, Mathieu ? Moi, j'ai une réponse sur les concerts qu'il va donner.
Et c'est où ?
Ce sera à la scène musicale les 18 et 19 mars 2026 pour le ciel, on verra bien.
Si Mathieu, le ciel peut bien attendre, on vous retrouve ce soir à 21h.
Mais moi je vous parlerai de Cardi B, d'Oxmo Puccino, Ituri, de Supertramp et de la BO d'un film dingue, Sirat.
À ce soir.
À ce soir.
5h41 sur France Inter. Que se passe-t-il chez Lefèvre Dalloz, éditeur du Code civil, du Code pénal, du Code du travail? La cellule investigation de Radio France a enquêté sur cette maison centenaire, le leader français de l'édition juridique. Géraldine Allo, c'est le suicide d'un salarié en mai dernier qui vous a alerté.
Ce jeune homme avait 36 ans, il était commercial chez Lefèvre Dalloz Compétences, l'entité du groupe qui vend des formations juridiques. Le 23 mai dernier, il a mis fin à ses jours, là même où il travaillait, au siège de l'entreprise dans le quartier de la Défense. Anne, c'est un prénom d'emprunt et sa voix a été modifiée, est une cadre du groupe.
Il s'est jeté du rooftop à 9h15 pour tomber exactement devant une des entrées. Donc il y a des salariés qui l'ont vu tomber, il y a des salariés qui l'ont vu à terre.
Aussitôt, la police et l'inspection du travail ouvrent une enquête dont les résultats ne sont pas encore connus. Mais pour la direction, ce suicide n'a pas de lien avec le travail. C'est en tout cas le sens du mail qu'elle a envoyé 4 jours après le drame à tous les salariés. Message qui a été mal perçu en interne, nous raconte Anne.
La direction nous dit que c'est un drame, mais qu'il était parfaitement heureux dans son travail, parfaitement intégré dans son équipe, alors même que les enquêtes n'ont pas débuté. Il y a une volonté évidente de refermer la question pour que ce soit un non-sujet.
Or, au-delà de ce drame, il y a un sujet souffrance au travail chez Lefèvre Dalloz. D'après les nombreux salariés que nous avons rencontrés, un indicateur en atteste, un taux d'absentéisme élevé, 1,5 point au-dessus de la moyenne nationale. Un chiffre que la direction a transmis en interne, mais qu'elle conteste aujourd'hui.
Vous avez donc enquêté, Géraldine, comment en est-on arrivé là ?
Tout part d'une réorganisation du groupe en 2018. À l'époque, Lefèvre Dalloz est rentable, le chiffre d'affaires est stable et l'actionnariat structuré autour de deux familles historiques. Les salariés décrivent un management bienveillant et paternaliste. Mais en 2018, donc, un nouveau PDG arrive, entouré de consultants. Il décide de fusionner toutes les activités, formation puis édition. Il impose des objectifs de vente en forte hausse, raconte aussi Alice. Prénoms et voix ont été modifiés.
C'est un management par la terreur, en fait. On change les règles en permanence, on impose des objectifs qui sont construits sur rien. Ça peut être, voilà, au mois de novembre ou décembre, on dit, bah, tiens, l'année prochaine, il faudra faire plus de 10% de croissance, sans sortie de nouveaux produits, et on n'a pas un parc client qui se démultiplie d'une année sur l'autre.
Résultat, les commerciaux sont particulièrement en souffrance, témoigne Sophie. Là encore, prénoms et voix sont modifiés.
Je crois que vraiment le pire, c'est vraiment d'être tombé plusieurs fois sur des gens qui étaient en train de pleurer tout seuls dans un coin. C'est la pression pour la plupart, c'est de se dire bah, « je ne peux pas atteindre mes objectifs » et il est quand même pas rare que des gens soient licenciés pour incompétence. Donc ils ont peur que ça leur arrive. On est bien au-delà en fait d'un stress positif en fait. On est sur un stress toxique.
Alors en interne, il y a eu plusieurs alertes et choses rare, la première émane de deux actionnaires de Lefèvre Dalloz. Ils ont écrit au conseil de surveillance dès 2021 une note véhémente contre la direction du groupe. Nous en avons fait lire un extrait.
Une réelle souffrance remonte des équipes, avec notamment un manque de considération des compétences des salariés et un recours systématique aux consultants extérieurs. C'est d'autant plus violent que c'est à l'opposé de la culture historique du groupe.
On est passé d'un groupe familial à un groupe version McKinsey, nous dit aussi une directrice partie récemment. D'après nos informations, le cabinet américain a effectivement conseillé le PDG à hauteur d'1 million d'euros sur la stratégie à suivre pour réorganiser cette vénérable maison Lefèvre Dalloz, où l'on écrit le droit. PDG qui est parti à la retraite au printemps et qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. La nouvelle direction explique pour sa part mener la nécessaire modernisation en s'appuyant, je cite, sur la transparence, le respect et la confiance.
Lefèvre Dalloz, une maison centenaire dans la tourmente, en enquête de Géraldine Allot, à lire en longueur sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. 5-6.
Il est 5h46, l'heure de contacter notre invité, déjà debout, chef d'une entreprise de transport et collecte de produits agricoles et maire du village de Plaisance dans l'Aveyron. Bonjour Thierry Arnal.
Bonjour. Bonjour.
Pourquoi êtes-vous déjà debout ?
Alors, je suis debout parce que ben, tous les jours, il faut collecter donc, le lait de brebis, puisqu'on est dans la région Occitanie, plus précisément dans le département de l'Aveyron, au pays du Roquefort. Et donc, tous les matins, mes salariés, donc une petite entreprise familiale de collecte de produits agricoles, collectent le lait de brebis dans les fermes du département de l'Aveyron.
Et il faut que ça soit tôt.
Il faut que ce soit tôt parce que dans le cahier des charges de l'AOP Roquefort, le lait, une fois collecté, a un minimum de 24 heures pour être traité et mis et fabriqué en fromage. Voilà.
Et vous
C'est pour ça qu'on se lève tôt.
Et vous transportez aussi parfois des céréales.
Et voilà. Alors donc, pour compléter l'activité, l'annualiser, disons, pour mes salariés, sachant que le lait de brebis, évidemment, c'est que 9 mois de l'année, puisque les brebis produisent du lait qu'un certain temps, après elles se mettent au repos pour après avoir une nouvelle gestation, on collecte des céréales, voilà, pour les coopératives de la région. Voilà. Donc, on est pas le premier maillon de la chaîne, puisque le premier, c'est quand même les éleveurs ou les producteurs qui, eux, vont traire les brebis. Mais on fait partie d'une chaîne et derrière nous, voilà, des gens attendent le produit pour pouvoir le fabriquer. Donc, voilà pourquoi on se lève tôt dans l'Aveyron.
Vous partez chez l'agriculteur et vous acheminez le lait jusqu'aux laiteries, en fait.
Voilà, donc il y a deux laiteries dans le département de l'Aveyron, une dans le département de la Lozère, et donc on achemine le lait tous les jours des producteurs vers la laiterie pour fabriquer donc le fromage de Roquefort.
Alors voilà. Vous venez de le dire, sur cette activité de transport, vous commencez tôt, vous terminez tôt, et vous pouvez donc avoir une autre activité. Maire de Plaisance, 390 habitants, ça consiste en quoi ce travail-là pour vous ?
Alors, ce n'est pas un travail, pour moi, c'est vraiment une passion. Ça me paraissait cohérent aussi d'avoir un mandat d'élu pour pouvoir aménager mon territoire et puis avoir un pied à la fois dans l'activité économique et dans le décisionnel au niveau territorial pour pouvoir participer à la formation des jeunes, à leur logement. On m'a proposé la présidence d'un centre de formation d'apprentis que j'ai pris depuis maintenant quelques années dans le sud Aveyron. Ça me permet aussi de former nos jeunes aux métiers et qui répondent vraiment à des métiers spécifiques. L'élevage, il y a pas mal de contraintes, donc on les forme à vraiment à la spécificité de nos métiers.
Mmh. Et c'est bientôt les municipales. Est-ce que vous avez envie de vous représenter, Thierry Arnal, en tant que maire?
Alors, je l'ai déjà annoncé officiellement, je me représenterai, mais il n'y a pas que moi, c'est une équipe qui se représente parce que tout seul, on ne fait rien. Mmh. J'ai une belle équipe autour de moi qui, à 90%, repart pour une prochaine mandature. Donc, je trouve que les deux fonctions, gérant d'une entreprise et élu,
ça marche bien ensemble.
Je trouve ça très cohérent, oui.
Et vous en êtes la preuve vivante, Thierry Arnal, maire de Plaisance, chef d'entreprise. Plaisir de vous parler ce matin. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Eh bien, merci à vous.
Il est 6h10. Avant de déguster un café philo avec Patricia Martin, on rappe avec Jay-Z, Change Clothes.
Back, proof is back, tell the whole world the truth is back. You ain't gotta argue about who can rap, cause the proof is back. Just go through my raps, New York, New York. Yeah, where my troopers at, where my hustlers, where my boosters at. I don't care what you do for stacks, I know the world glued your back to the wall. You gotta brawl through that, I've been through that, been shot at, shoot back. Gotta keep a peace like a boot ass. I ain't a new jack, nobody gon' Wesley snipe me. It's less than likely, move back. Let I breathe, Jedi Knight. The more space I get, the better I write. Oh, never I write, but if ever I write, I need the space to say whatever I like. Now just
change clothes and go.
No, I stay fresh to death, aborted from the projects, and I'ma take you to the top of the globe.
So let's go. Let's exchange clothes and go. And girl, I promise you, no substitute.
It's just me. And I ain't gonna tell you again, let's get ghosts in the phantom. You can bring your friend, we can make this a tandem. Or you can come by yourself and you can stand them. Best believe I sweat out weaves, give afro puffs like R-A-G-E. How you get if you can move it, back it on up like a U-Haul truck. Then run and tell them ducks you heard Hobie new shit. He and the boy for real make beautiful music. He is to the East Coast with Snoop is, to the West Coast with Faces to Houston. Young Hov in the house is so necessary. No bra with that blouse, that's so necessary. No panties and jeans, that's so necessary. And why you front on me, is that necessary? Do I? Till you look like a lame who don't understand a bra with a mean shoe game. Who's up on dot, dot, dot and Vera Wang? My, are you insane? That's just
what you want me to do.
Change clothes and go.
No, I stay fresh to death, aborted from the projects, and I'ma take you to the top of the globe. So let's go.
Let's exchange clothes and go. And girl, I promise you, no substitute.
It's just me. Sexy,
sexy.
That's right. It's a groove. Bring it back. Young Hov in the house is so necessary. No bra with that blouse is so necessary. No panties and jeans is so necessary. Why you frontin' on me? Let's go to my hotel. This don't go well with those Estes. Gotta stay fresh, my. House shot with a respite. Oh no, ma, please respect my jiggy. This is probably purple label. Or that BBC shit on is probably tailored. And y'all niggas acting way too tough. Throw on a suit, get it, tape it up. And let's just
change clothes and go.
No, I stay fresh to death, aborted from the projects, and I'ma take you to the top of the globe. So let's go.
Let's exchange clothes and go.
And girl, I promise you, no substitute.
It's just me. Snap your fingers now.
Your boy is back. Your bounce is back. Young is back.
Change clothes, c'est le moment de quitter votre pyjama. C'était le rappeur américain Jay-Z, titre sorti en 2003.
France Inter, le 5-6.
Et c'est l'heure de saluer Patricia Martin qui nous rejoint pour son café philo. Bonjour Patricia.
Bonjour Marion Lourd.
Alors, il s'agit ce matin de savoir si de la Terre ou du monde, on choisit la première ou le second.
Ouais, c'est en tout cas le titre d'un dialogue entre deux philosophes d'aujourd'hui. Leur dialogue est devenu un livre intitulé « La Terre ou le monde ». Étienne Balibar et Patrice Maniglier se connaissent bien. Ils ont de toute évidence beaucoup d'estime l'un pour l'autre, ce qui ne les empêche pas de ne pas être toujours d'accord. Toute politique est cosmopolitique, pense profondément Étienne Balibar. Autrement dit, la politique ne peut plus exister sans prendre en compte la dimension du cosmos. La cosmopolitique, c'est une façon de repenser ce que l'écologie fait à la politique. Et Patrice Maniglier est d'accord avec ça, il ne faut négliger, ni encore moins oublier, cet aspect des choses.
Donc ils sont d'accord.
Alors, pas complètement, loin de là, même si chacun respecte la position de l'autre. Pour Étienne Balibar, il faut d'abord mettre en avant l'homme, l'humain, c'est un primat absolu. Pour Patrice Maniglier, ce qui prime, c'est une politique de la Terre, car désormais notre condition terrestre prime sur notre condition humaine. Et la vie, avec tout ce qui n'est pas humain, est forcément en interaction avec les humains. Or, Étienne Balibar ne veut pas donner à cette réalité, on va dire, un statut privilégié. Mais leur réflexion est franchement si fine et fouillée que j'aurais l'impression de les trahir en les opposant grossièrement.
Vous disiez qu'ils se connaissent depuis longtemps.
Oui, Patrice Maniglier fut d'abord l'élève d'Étienne Balibar, l'un pour être le fils de l'autre, et c'est à mon sens un élément à la fois important et très plaisant dans leur échange. Ça se bouscule, ça se contredit, toujours avec des arguments à l'appui, et puis l'amitié a fait le reste. Étienne Balibar ne m'en voudra pas, la parole est à son cadet, Patrice Maniglier.
Toute politique locale, y compris municipale et terrestre, a des éléments terrestres. Moi, c'est ça qui m'importe. Plus que la question de la continuité entre les humains et les animaux ou les autres qu'humains, ce qui m'intéresse, c'est cette question, si vous voulez, géographique, quoi. C'est que localement, on est déjà total, en fait. On est déjà au niveau de la planète. On est planétaire localement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un apartheid planétaire. C'est-à-dire que les gens qui veulent, en fait, avoir des politiques non cosmopolitiques, c'est-à-dire qui ne prennent pas en jeu la grande diversité des implications, des intérêts sur cette planète, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme Trump. Ils disent, c'est du séparatisme, mais c'est un séparatisme, évidemment, qui n'a d'autre outil que, eh bien, tout simplement, l'écrasement des autres. Il n'y a pas de solution. Ce n'est pas du tout un isolationnisme, n'est-ce pas? Ça, c'est le point le plus important de cette affaire. C'est-à-dire que la forme coloniale, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'aller envoyer des chars pour occuper le territoire.
Alors, je n'ai pas de conseils à donner à Donald Trump, mais ce livre pourrait lui être profitable.
Ce livre, je rappelle les références pour Donald Trump, c'est « La Terre ou le Monde, divergence cosmopolitique en clair, la place de l'environnement et de l'humain dans notre cosmos ». Il est publié chez Miel et Barreau. Étienne Balibar et Patrice Maniglier seront ce soir tous les deux les invités de votre heure philo. À ce soir, Patricia.
À ce soir, merci Marion.
À 20h10.
France Inter, partenaire du Festival du Monde. Le journal Le Monde fait son festival et vous ouvre ses portes. 4 jours de débats avec des invités inspirants, des rencontres avec la rédaction, des spectacles, des ateliers, des quiz géants, de la gastronomie. Un rendez-vous pour imaginer les mondes de demain. En accès libre ou sur réservation. Le Festival du Monde, une expérience à vivre du 18 au 21 septembre à Paris avec France Inter.
5h58.
La météo
avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Le temps reste mitigé, Sébastien Léas.
Après une nuit parfois agitée avec des averses, la tendance est à l'accalmie. L'instabilité se maintient tout de même entre la Manche et le Pas-de-Calais ce matin, puis entre la Normandie et les Hauts-de-France cet après-midi avec localement de l'orage. Sur le reste du pays, le temps sera plus lumineux avec des éclaircies. La journée se passera même sous le soleil en Corse, dans la vallée du Rhône et de l'Hérault à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre le bassin parisien, la Touraine et la Mayenne, c'est surtout la matinée qui se passera sous un ciel dégagé. En revanche, des Landes et du Pays Basque au Midi Toulousain et au Limousin, la journée commencera sous des nuages imposants avec même quelques pluies avant le retour d'éclaircies cet après-midi. Les températures maximales restent légèrement sous les normales de saison, hormis autour de la Méditerranée. Il fera d'ailleurs jusqu'à 31 degrés à Draguignan et Porto Vecchio ou encore 28 degrés à Nîmes, Aubagne et à Narbonne, alors qu'on attend 19 degrés à Dunkerque, Rouen et Verdun, 20 degrés à Besançon et Orléans, 21 degrés à Lorient, Paris, Colmar et Clermont-Ferrand, 22 degrés à La Rochelle, 23 degrés à Chambéry, Pau et Albi et 24 degrés à Agen.
Sébastien Léas de Météo France. Et qui revoilà dans ce studio, c'est Ali Bado.
Mais je crois bien, oui.
Oui, avec au programme...
Je est un autre.
On est parti pour longtemps, là.
Au programme ce matin, à 6h20, après l'assassinat de l'influenceur raciste et pro-Trump Charlie Kirk, vous recevrez Romain Huret, historien spécialiste des États-Unis, à 8h moins le quart, au sommaire du débat éco avec Thomas Porcher, Dominique Seux, la préférence européenne pour les panneaux solaires et les batteries électriques. Et à 8h20, Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire de l'Europe et des Affaires étrangères, sera notre invité. Beaucoup de questions à lui poser tout à l'heure.
Bienvenue sur France Inter, il est 6h.